Radio Kapi. Oh, Kapi.
Près de 16 enfants de moins de 5 ans sont morts ces 3 derniers mois dans des sites de déplacés de Djaïba et Loda dans les territoires de Djougoun et Manitouri. OCHA parle des difficultés d'accès aux soins de santé et les mauvaises conditions de vie de ces personnes en déplacement. Et puis le ministre de Petenti, Kibasa Maliba, était hier devant la représentation nationale à l'Assemblée. Il était question de la qualité des services des télécoms, le contrôle de flux de la maximisation des recettes et la gestion de la fibre optique. Vous l'écouterez dans cette édition du journal. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est Ignace Ilunga Kabulo, directeur provincial de la régie des eaux au Katanga. Il revient sur l'état de la desserte en eau potable dans la ville de Lubumbashi et les difficultés auxquelles cette société sont confrontées, notamment la spoliation de son espace par des tierces. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons cette édition du journal par cette triste nouvelle. Tarsis Kasongo Mwemba Yamba Yamba, président du conseil d'administration à l'agence congolaise de presse, ACP, journaliste et porte-parole du président de la République, n'est plus. Information confirmée par des sources officielles. Il s'est éteint après un malaise, selon ces mêmes sources, à l'âge de 70 ans. Nous l'avons dit au sommaire en Ituri. Environ 16 enfants de moins de 5 ans sont morts ces 3 derniers mois dans des sites de déplacés de Djaïba et de Loda dans les territoires de Djougou. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, le problème d'accès aux soins de santé et les mauvaises conditions de vie de ces personnes déplacées sont à l'origine de ces décès. Isaac Remoyopi.
Selon les rapports du bureau OCHA Ituri, parmi ces enfants, 6 sont morts au mois d'octobre dernier dans les deux sites de Djaïba et de Loda. Ces enfants souffraient notamment de pneumonie et d'angine. La plupart des abris de ces personnes déplacées ont été détruits pendant l'attaque des groupes armés en avril 2002 et d'autres sont déjà vétustes, ce qui expose surtout les enfants aux intempéries et aux diverses maladies pulmonaires. Selon les comités des déplacés de ces sites, il y a des besoins en abris pour au moins 1570 familles qui passent la nuit dans des conditions très précaires. Ces personnes déplacées n'ont pas également accès aux soins médicaux. Certains recourent à la médecine traditionnelle avec des risques et des complications qui entraînent même la mort. Ces déplacés manquent également de vivres. Au site de Djaïba, par exemple, ils n'ont plus reçu d'assistance humanitaire depuis avril 2021, précisent leurs représentants, ce qui justifie des cas de malnutrition, surtout chez les enfants. Les gestionnaires de ces sites plaident pour une aide d'urgence en vivres et en médicaments pour sauver des vies en détresse. Bounia Isakre Moyope, Radio Okapi.
Pendant ces temps au Nord Kivu, la situation reste tendue ce samedi dans la zone de combat qui oppose depuis hier vendredi l'armée congolaise aux rebelles du M23. C'est notamment vers le nord et nord-est de la cité de Kiwanja, mais aussi dans les groupements de Kisigari et Rugari au sud du territoire. Les sources sur place affirment qu'il y a quelques avancées des FARDC sur le front nord. Plus de 10 civils auraient péri dans ces affrontements, indiquent ces mêmes sources. Le point avec Piro Elamiji.
Jusque ce samedi matin, les tirs d'armes lourdes et légères étaient encore entendus dans la zone de Kaunga, au nord de Kiwandia et même dans celle de Rugari, plus au sud du territoire, affirment différentes sources civiles locales. Ces sources indiquent que ces affrontements, qui ont commencé hier vendredi, se sont poursuivis jusque tard dans la nuit, avant de reprendre encore pendant quelques heures ce samedi dans la matinée. Les troupes des FARDC venues du nord ont attaqué les rebelles vers Kaunga, à 5 km au nord de Kiwandia et Nkwenda, qui est à environ 10 km au nord-ouest de Kiwandia sur l'axe Nyamilima. Aucun bilan militaire n'est encore disponible. Cependant, nos sources dans la région déplorent une dizaine de morts du côté des civils. Dans le village Bushenge, groupement de Kisigari, 6 civils ont été tués et 3 autres blessés. À Kinyandoni, dans le groupement Bukoma, à 6 km de Kiwandia sur l'axe Nyamilima, où 5 civils ont été tués par un obus et 2 autres blessés. Nos sources précisent que les FARDC sont arrivés à Kinyandoni avant de replier encore vers Nkwenda. Et sur l'axe nord, les sources affirment que l'armée est arrivée jusqu'à Kaunga, village situé à environ 5 km au nord de Kiwandia et qui est resté désert, ses habitants étant partis depuis hier vendredi.
Et puis le gouvernement congolais attend du comité des sanctions des Nations Unies de lever ce qu'il qualifie d'embargo qui ne dit pas son nom en matière d'équipement militaire et principalement d'armes avec le maintien du régime de déclaration. Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a déclaré ce vendredi 11 novembre ici à Kinshasa. C'était dans une conférence conjointement animée avec son collègue de médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Christophe Lutundula dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit « oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire ». Ce que nous disons au comité des sanctions qui est ici, c'est que cette histoire d'embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vantent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État devant nous comme commandant suprême de forces armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible, nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas quoi, qui agresse. Non, pas du tout.
Et puis, sachez que João Lourenço, chef de l'État angolais, séjourne depuis ce samedi à Kinshasa en sa qualité de médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais va échanger avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Cette visite du chef de l'État angolais intervient après la tripartite Angola-RDC-Rwanda-Luanda qui a réuni le 6 novembre dernier les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. Et puis, les femmes leaders du Nord Kivu demandent au gouvernement congolais la création d'un mécanisme d'information de la population avant la signature des accords de paix afin de sonder l'opinion nationale et orienter les experts. Cette demande a été formulée dans une déclaration commune publiée ce vendredi à Goma à l'issue des travaux d'analyse des accords signés par le gouvernement congolais depuis 1999 à ce jour. Pendant 2 jours, ces femmes ont analysé les différents accords de paix dont l'accord global inclusif de Saint-City, l'accord de cesser le feu de Lusaka, les accords entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple CNDP, les accords de paix entre le gouvernement et le M23, les accords cadres d'Addis Abeba, ainsi que le communiqué et feuille de route de Nairobi. Voici les constats des femmes à l'issue de leurs analyses dans cet extrait de la déclaration lue par Madame Edoxie Nziavaki.
Plusieurs accords de paix ont été signés par le gouvernement congolais, mais il ressort que ces accords ne sont pas évalués en amont et en aval. Certains engagements dans les accords sont réalisés, mais taillés sur mesure de certaines parties prenantes. Les accords sont signés sans concertation de la population. Tous les accords donnent des obligations au gouvernement congolais et non aux autres parties prenantes. Les femmes et les enfants ne sont pas cités comme victimes dans les accords et n'ont aucune protection ni assistance lors des conflits armés et guerres. La participation effective des femmes dans les processus de négociation de paix à tous les niveaux est faible. Les femmes ne sont pas invitées en tant que partie prenante aux négociations malgré leur rôle important dans la consolidation de la paix.
Les femmes leaders du Nord Kivu demandent que soient prévues des sanctions à appliquer en cas de non-respect des engagements pris par les signataires. Notons que ces travaux ont été organisés par l'organisation Focus Droits et Accès en collaboration avec la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Autre nouvelle, dans la province du Maniema, celle-ci est désormais annexée dans le groupe le programme de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Cette décision des autorités congolaises intervient à l'issue des échanges qu'a eu le gouverneur intérimaire du Maniema et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le coordonnateur du dit programme lors de son séjour à Kinshasa. À son arrivée à Kindu, le vendredi 11 novembre, Afani Idrissa Mangala a annoncé l'arrivée à Kindu vers la fin de ce mois d'une délégation mixte, coordination PDDRCS, gouvernement de la République, pour un état des lieux. Le chef de l'exécutif provincial a aussi rassuré la population de désenclavement de la province à travers les fonds alloués par le gouvernement central à l'office des routes pour réhabiliter les routes. Afani Idrissa Mangala est dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous avons eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aussi le coordonnateur national du programme national de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et par rapport à ça, une forte délégation, je vous annonce, sera ici le 27, qui va séjourner dans notre province pendant 9 jours. Et cette mission va organiser une séance de travail avec tous les administrateurs du territoire touchés par les affres de la guerre, les chef de secteur et chiffrerie, et aussi le membre du gouvernement, le membre de l'Assemblée provinciale. La population d'ici de Maniema et Nord-Maniema peut espérer maintenant à une paix durable. Parce que ce qui manquait, c'est ce programme-là. Maintenant, là, nous avons mené des lobbying et la province du Maniema est annexée automatiquement dans ce programme. Je suis allé à Kinshasa, c'était sur invitation du gouvernement central. Nous avons fait des lobbying pour qu'on ait l'argent pour réhabiliter des routes et bien sûr, la province sera désenclavée. L'autorité de l'État doit se faire sentir partout.
Le ministre des PTNTIC était hier vendredi devant les députés nationaux membres de la commission infrastructure, aménagement des territoires et télécommunications. Kiba Samaliba est venu répondre aux préoccupations des députés, notamment sur la qualité de service des télécoms, le contrôle de flux de la maximisation des recettes, la gestion de la fibre optique. Dans ces éléments de réponse, le ministre des PTNTIC a rencontré avec satisfaction toutes les préoccupations des députés, affirme le président de la sous-commission des télécommunications. Pour le ministre, le gouvernement a déjà pris plusieurs mesures pour amener les entreprises de télécommunications à améliorer la qualité de leurs services et à se déployer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre Kiba Samaliba est au micro de Michel Kifindangoy.
Pour ce qui est de la qualité de service des réseaux de télécommunications et des déploiements de la 4G, l'APTC venait d'initier récemment une série de campagnes de mesures de terrain à travers la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer la couverture des réseaux mobiles de 2e, 3e et 4e génération et l'expérience ressentie par les clients. Ces campagnes de mesures vont s'intensifier et se poursuivre dans les autres agglomérations du pays. Par ailleurs, mon ministère et l'APTC s'emploient à élaborer un projet de barème de sanctions applicable aux opérateurs en cas de manquement aux obligations de la qualité de service. La technologie 4G fut introduite en RDC en 2019 et son déploiement était initialement limité à quelques villes du pays, étant donné que l'accès à Internet était déjà assuré par la 3G. Le coût élevé des communications. En réalité, les tarifs des appels voix, comparativement aux autres pays de la sous-région, ne sont pas aussi élevés en RDC qu'on se l'imagine.
Autre nouvelle, une dizaine de personnes ont péri dans un accident de circulation survenu le jeudi dans la soirée dans la localité de Luambo, territoire de Kambove, province du Haut-Katanga. La plupart des victimes sont les femmes habitant la ville de Likasi. L'administrateur du territoire de Kambove demande une fois de plus aux usagers de la route de respecter les codes de la route pour préserver les vies humaines. Jean Gandou.
D'après l'administrateur du territoire de Kambov, un minibus de marque IAS provenait du marché de Luambo avec à son bord 18 personnes. La majeure partie des passagers étaient constituée des femmes habitant la ville de Likasi et qui sont allées s'approvisionner en marchandises dans ce marché situé à plus ou moins 10 km sur l'axe Likasi-Kolwezi et qui rentraient chez elles à Likasi. Toujours d'après la même source, l'accident s'est produit à la hauteur du village Mandumbuila, à environ 1 km du lieu où est installé le pont bascule. Le chauffeur du minibus qui roulait à vive allure, voulant dépasser un camion en stationnement transportant du sable, a vu surgir devant lui un autre grand camion venant dans le sens contraire. Ne pouvant pas manœuvrer pour revenir sur sa ligne, il est allé finir sa course dans le camion en stationnement. 15 personnes sont mortes sur place, dont 2 hommes et 13 femmes. Les 2 hommes sont les chauffeurs et son receveur. 3 passagers en sont sortis blessés. Ils ont été conduits dans certains hôpitaux de Likasi. Certains morts ont été récupérés par les membres de leur famille et qui les ont emmenés dans les morgues de Likasi. Le chef de la chefferie de Basanga a pour sa part disponibilisé d'une ambulance pour transporter les corps d'autres victimes jusqu'à Likasi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, plus de 30 maisons de tolérance recensées ces jours-ci dans la commune rurale de Mangina, dans le territoire de Beni. D'après le Conseil communal de la jeunesse, les filles mineures sont victimes de cette situation d'exploitation sexuelle à cause des conditions de vie dans ce milieu où vivent des familles de personnes déplacées. Dutchuma Rigen, président de cette structure, estime que pour mettre fin à cela, il faut créer des centres de métiers qui peuvent permettre d'encadrer et d'occuper ces filles mineures. Il salue également les débuts de travaux de construction d'un centre d'apprentissage par la Caritas du diocèse catholique de Boutembo-Béni. Dutchuma Rigen est au micro de Guylaine Kassassia.
Vraiment, la situation de prolifération des maisons de tolérance à la municipalité de Manguina, ça nous inquiète. Nous considérons cela comme une autre forme de massacre, car les mineurs sont utilisés comme les choses. Donc les enfants, à moins de 18 ans, ils sont recrutés par les maîtresses de l'air QG. Ils viennent de partout là. Et la plupart sont déplacés d'abord, qui viennent de la province orientale. Et c'est comme ça que la commune, il y a plusieurs maisons déjà de tolérance qui regorgent ces enfants-là. À notre niveau, nous avons déjà commencé à sensibiliser les maîtresses là. Et elles peuvent normalement nous aider à faire gagner ceux-là qui sont encore mineurs. Nous avons fait aussi une plaidoirie avec l'ONG Caritas. Caritas va ériger à Manguina un centre d'apprentissage multisectoriel dans le sens de résoudre, tant soit peu, les problèmes des mineurs qui peuvent être employés. Nous avons déjà pensé aussi une plaidoirie auprès des NRC aussi, parce que les problèmes, elles acquisent le moyen de vivre. La plupart, elles sont en âge scolaire, mais les problèmes avec les atrocités, elles sont de toutes les façons dégoûtées. Ce qui est peut-être comme solution est de leur apprendre des métiers et manières qui pourront peut-être de les aider dans les jours à venir.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, lancé depuis le 25 octobre dernier, le recrutement de 35 000 volontaires communaux et de 15 000 volontaires nationaux se poursuit. Passé les périodes de réticence, de nombreux jeunes se font enrôler à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré qui demande à chaque Burkinabé sa participation à l'effort de guerre dans le cadre d'une mobilisation populaire contre le terrorisme. Jeunes, personnes âgées, femmes ou hommes s'inscrivent, même si les documents exigés ralentissent un peu le processus. Et puis au Canada, 4 personnes ont été hospitalisées après avoir été blessées dans une fusillade hier vendredi près d'un collège de Montréal, a-t-on indiqué de sources policières, rapporte l'AFP.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal s'appelle Ignace Ilunga Kabulo. Il est le directeur provincial de la régie des eaux au Katanga. Dans cette interview qu'il a accordée à Radio Kapi, il revient sur l'état de la desserte en eau potable dans la ville de Lubumbashi et les difficultés auxquelles cette société est confrontée, notamment la spoliation de son espace par des tierces. Ignace Ilunga Kabulo s'entretient ici avec Jean Gando. Suivez.
Monsieur le directeur Ignace Kabulo, bonjour.
Bonjour.
Quel est l'état de la desserte en eau dans la ville de Lubumbashi?
L'état de la desserte en eau de la ville de Lubumbashi est moyennement bonne. Nous sommes autour de 60% des taux de desserte. Ça veut dire, hier, nous avons été à un taux plus élevé, mais compte tenu de l'accroissement démographique, nous avons régressé progressivement du fait que les investissements qui ont été réalisés dans les secteurs n'ont pas suivi le rythme d'augmentation de la population.
Et à Lubumbashi, vous avez combien de sites de captage ou de pompage?
Nous avons plusieurs sites, mais le plus important, nous en avons 3. C'est le site de Kimilolo, de Kassapa et de Lalwano.
Dans quel état se trouvent ces différents sites?
Kimilolo, nous avons sur ces sites 3 grandes usines que nous appelons 3 grands modules. Le module 1, qui est le plus ancien, qui fonctionne à 50% avec des équipements tout à fait neufs, et alors que 50%, ce sont des équipements qui sont un peu faibles et qu'il faut remplacer. Nous avons Kimilolo 2, qui a été rénové tout récemment, complètement, et même renforcé. Et nous avons Kimilolo 3 qui, lui, l'a été en 2015, donc il est encore un site récent et qui fonctionne correctement. Mais ces sites dépendent aussi des unités auxiliaires comme Kafubu, nos forages qui sont en Kafubu qui alimentent la station de Kimilolo 3, qui eux connaissent des problèmes justement qui justifient la mauvaise desserte dans certains quartiers comme Plateau, Caravia, où les gens ont du mal ces jours-ci parce que nos deux pompes de Kafubu sont à l'arrêt.
À travers la ville de Lubumbashi, nous voyons les gens trimballer des bidons jaunes à longueur des journées, pas seulement du côté Caravia, c'est un peu partout. Est-ce qu'il y a des explications concrètes par rapport à cet aspect des choses?
Des explications, il y en a toujours, parce que d'abord, vous savez que la régie des eaux qui mille ses propres pannes avec les pannes de la SNEL, ça c'est la première explication. Ça veut dire que lorsque nous n'avons pas de courant, nous ne fonctionnons pas. Lorsque nous avons nos propres pannes, nous ne fonctionnons pas. Mais au-delà de cela, il faut dire que la carte de desserte en eau potable dans la ville, du moins là où nous sommes présents, j'ai dit que nous couvrons à peu près 60% de la population, c'est principalement parce qu'il y a des quartiers où nous ne sommes pas présents. Et quand vous laissez 40% à côté, vous avez quand même un monde pas maîtrisable de gens qui circuleraient et qui devraient circuler avec des bidons jaunes vers des zones où il y a de l'eau. Donc ça, je vous l'accorde tout à fait. Mais dans la zone que nous couvrons, je peux vous assurer que nous desservons mieux aujourd'hui qu'hier, parce que nous avons suffisamment apporté des aménagements qui ont quand même amélioré la desserte au niveau de la ville.
Vous dites que vous avez fait mieux aujourd'hui qu'hier, pendant que vous vous plaignez que les différents sites sont spoliés. Quand on spolie, ça veut dire qu'il y a rétrécissement de l'espace de la régie des eaux, ce qui fait que la démographie profit s'accroît et quand on met les taux sur la balance, ça ne marche pas.
Malheureusement, nos trois grandes usines sont toutes spoliées, que ce soit Kimilolo qui l'est aujourd'hui à hauteur d'environ 40%, Loano qui l'est à plus de 60%, Kassapa qui l'est à environ à 60% de son espace. Donc vous avez des sites qui sont spoliés avec le risque de tarissement d'eau parce que ces sites ne sont plus rechargés en eau. L'eau coule ruisselant à cause du déboisement qui est réalisé sur place, mais aussi des sites qui risquent la pollution en eau potable parce que les populations qui s'y installent laissent leur empreinte environnementale dessus et qui laissent croire que demain, si nous avons encore très peu d'eau à cause du tarissement, nous aurons une eau polluée. Jusqu'à ces jours, nous pouvons dire que l'eau est encore bonne. En combien de temps nous tiendrons encore? C'est ça qui nous inquiète, parce qu'au rythme où l'envahissement est en train d'être réalisé, vous voyez qu'il y a déjà 300 mètres, vous avez certaines maisons d'habitation, et ça c'est un danger réel. Et au finish, nous risquons d'avoir une pollution, mais nous avons tout un laboratoire qui nous alerte sur l'incidence de la contamination qui se réalise au jour le jour. Vous savez, nous sommes en zone minière, et quand on est en zone minière, on creuse un peu partout, on donne priorité aux mines, mais il faut qu'on fasse un arbitrage entre les mines et aussi les besoins en eau potable qui doivent être satisfaits. En amont de Kimilolo, vous avez une usine qui produit les minerais là-bas et qui rejette aussi ses déchets dans la même nappe, mais nous avons alerté aussi les autorités pour que cette situation soit examinée. Nos laboratoires analysent régulièrement ces eaux, notamment en ce qui concerne l'acidité. Nous prenons notre eau en profondeur jusque-là, nous ne sommes pas affectés. Et nous avons d'ailleurs porté cette question au niveau de l'Assemblée provinciale afin qu'on puisse, dans l'impossibilité de délocaliser l'usine, au moins les soumettre à un processus qui permettrait de retraiter leurs déchets avant de les rejeter dans la nature.
Ignace Lunga Kabolo, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Jean-Claude Ciala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination et la supervision de Pierrot et la Mégie. Merci aussi à vous pour nous avoir suivis.